Et nous sommes en ligne avec Alexandre Adler, qui est historien. Je ne vais pas rappeler tout le CV de cet intellectuel de très haut niveau qui est notre invité ce soir. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir, et je suis très honteux d'entendre de tels éloges que je ne mérite pas. Mais enfin, en tout cas, oui.
Vous connaissez bien la Russie, Alexandre.
Alors
ça,
là-dessus, oui, ça, je veux dire que je la connais plus que ça, je la connais intimement. C'est-à-dire qu'on ne me trompe pas, je les comprends. Je comprends notamment comment, dans ce pays, ils ont l'habitude de mentir au départ ou de trafiquer la vérité ou de ne pas dire exactement les choses. Et puis, je sais très vite les trouver.
Mais moi, je voudrais justement vous demander, j'entends sur toutes les chaînes de télé, tout le monde dire, vous avez été surpris, vous vous y attendiez, vous croyez, est-ce que Poutine a été surpris, est-ce que... Alors vous, par exemple, donc c'est le domaine de recherche, c'est à votre tour de répondre, vous avez été surpris et par il y a deux en fait, il y a et par l'invasion, tout simplement, et après par la résistance.
Alors la résistance, beaucoup moins, parce que je pense que Zelensky est un homme remarquable. Et quand je pensais à ce qu'on parle on parlait des Juifs d'Ukraine dans une de vos annonces humanitaires, et je pensais aussi à eux, bien sûr. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a chez Zelensky une chose extraordinaire, c'est que dans toute sa vie et dans toute sa carrière, il n'a jamais caché qu'il était juif. Et c'est encore une chose qu'il dit aujourd'hui, alors que sa tête est mise à prix par les tueurs de Poutine. Il ne ment jamais là-dessus. Et il est profondément fier d'être juif. Alors je ne sais pas s'il a fait un mariage mixte, parce que je n'ai pas fouillé, mais ça n'a pour moi d'ailleurs aucune importance. Mais par contre, il est tout à fait fier, et fier d'être juif. Ce qui fait que, en fait, tout le cauchemar hallucinatoire que nous dévite Poutine, et qui tient à une vieille tradition que tous les juifs de Russie ont, c'est-à-dire que le pays des pogroms, c'est l'Ukraine, là où les Ukrainiens se sont joints à la petite main-d'œuvre de la Shoah, c'est l'Ukraine, bien entendu, Demianiouk, tout ça, les tortionnaires, c'était des Ukrainiens, donc on n'aime pas l'Ukraine. Oui, et bien entendu, on a complètement tort, la carte est redistribuée, et bien entendu, les Ukrainiens qui eux aussi savent que finalement le drapeau bleu et blanc, dans un vieux livre très amusant d'un romancier juif russe, il se moque d'un de ses copains qui avait pris une cuite mémorable et qu'il va retrouver dans son appartement, et il dit, et il portait le drapeau, il était habillé en pogrom. Alors, mais pourquoi il était habillé en pogrom? Parce que il avait un sweater bleu et un pantalon blanc, c'est-à-dire bleu et blanc, la couleur des Ukrainiens, c'est-à-dire des pogromistes. Donc c'est ce qu'on pensait. Mais bien entendu, c'est complètement faux. Et bien entendu, les Ukrainiens le pensent aussi un peu. Ils se disent, et parce qu'ils sont à 60, les sondages montrent qu'il y a 76% d'encore pour Zelensky, c'est qu'ils sont fiers d'avoir un président juif. Et alors, un juif qui ne se cache pas. C'est extraordinaire.
Mais c'est quand même extraordinaire.
Ça veut dire que l'histoire n'est pas exactement ce qu'on croit qu'elle est.
C'est quand même extraordinaire que Vladimir Poutine nous dise qu'il s'est lancé dans une opération pour dénazifier un pays qui est dirigé par un juif et dont les grands-parents étaient dans l'armée rouge pour combattre Hitler.
Il est dans le mensonge, mais aussi dans l'hallucination.
Alors voilà, c'est ça la deuxième question. Est-ce que d'après vous, il est en train de perdre la boule ?
Oui, bien entendu. Alors, pourquoi est-il dans le mensonge ? D'abord, parce que en fait, on va s'en tenir simplement aux faits. À un moment donné, il y a de ça un an et demi, survient une information dont on ne sait pas d'où elle vient, disant que Poutine souffre de la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson, ça fait très peur. On a le souvenir du martyr du pape Jean-Paul II qui était terrible, et on sait que la maladie de Parkinson était totalement incapacitante. Or, ce qu'on ne sait pas, c'est que la médecine a beaucoup progressé depuis, et que il y a des gens qui ont avoué, c'est pas du tout parce que des informations confidentielles, souffrir de cette maladie de Parkinson et mener une vie, je dirais, presque normale. Alors cela dit, bien entendu, les progrès de la médecine passent aussi par une pharmacopée lourde, c'est-à-dire qu'il doit prendre certainement 10 à 15 pilules par jour pour essayer d'enrayer la maladie de Parkinson. Ça ne n'aide pas, à mon avis, à sa santé mentale. Mais en réalité, il avait le problème sérieux qui se pose, c'est d'où est venue l'information. Là aussi, les hackers sont remontés, c'est de je ne sais uniquement sur des faits. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, qu'en fait, l'information est venue directement de Moscou. Donc, qu'un certain nombre de collaborateurs ou d'amis, entre guillemets, de Poutine se sont fait un plaisir de dire « il a la maladie de Parkinson ». Pourquoi ont-ils fait ça, alors que c'est tout à fait de nature à contrevenir au prestige même de l'exécutif russe? Et Dieu sait que les Russes sont sensibles à ça. Si le tsar est en difficulté, c'est mauvais pour le peuple. Alors, pourquoi ont-ils fait ça? C'était bien les gens qui ont communiqué cela, ce sont des proches de Poutine. Et pourquoi l'ont-ils fait? Ben, ils l'ont fait pour le faire tomber. Comme il était déjà une tendance à la paranoïa, il s'est dit, bon ben voilà, ils veulent ma peau. Et effectivement, je suis persuadé que ce qui s'est passé à ce moment-là, et qui est avec la communication sur sa maladie, c'est qu'un certain nombre de gens, je vais les appeler les modérés, ou je vais les appeler les sages, pour être plus simple, ben, lui ont dit, voilà, effectivement, tu es en difficulté, tu veux être président à vie, tu ne tiens pas compte de la concertation qui doit exister entre nous, nous ne sommes pas d'accord sur tout ce que tu fais, et donc à partir de là, ben voilà, c'est que nous allons prendre des décisions collectives, et ça a commencé à être fait. Alors, vous voulez me dire, Poutine leur a demandé, mais alors vous voulez que je parte? Et puis comme il est parano et qu'il a eu une enfance difficile, il s'est dit, bon, c'est terrible. Et puis non, ils lui ont dit, non, pour l'instant, on reste comme on est et tu es toujours le président. Et c'est là que Poutine, dans sa grande folie paranoïaque et activiste, a vu qu'il y avait un petit trou qui était dans le mur, c'est qu'il restait président. Alors, pour combien de temps? Il a pensé qu'il n'en avait pas pour longtemps. Et que donc, même si les autres prennent des décisions contre lui, il est quand même toujours capable, à un moment donné, de prendre une décision. Laquelle? Ben, il s'est dit, seule une décision extrêmement provocatrice et extrêmement brutale, où je reprends en fait mes fonctions de chef des armées, va me permettre de me débarrasser de tous les opposants. À un coup, d'un seul. Et c'est ce qu'il a fait. Et alors, pour cela, eh bien, il a fait la ruse du faible d'un enfant battu qui l'a toujours été, ben, il a commencé à mentir en disant « Non, ben, je vais arrêter l'offensive au milieu, bien sûr. » Il a menti à Macron, mais il a menti à Macron comme il a menti à tous ses collègues. Il a dit « Aucun problème, je freine. Lorsqu'on sera arrivé à un point dans le Donbass, on arrête. » Là-dessus, ben, il arrive à ce point et au lieu de s'arrêter au barrage, comme il avait promis à tout le monde de le faire, à tout le monde, il accélère brutalement et paf, il fait la barrière et il fait la guerre.
Alors, il a fait la guerre en bombardant Kiev immédiatement. Dès le
bien
premier
entendu,
jour, on bombarde la ville de Kiev.
Bien entendu, alors la grande erreur qu'il a commise, non seulement sur la personnalité de Naryshkin, qu'il voyait comme un acteur, c'est-à-dire comme une merde, il s'est trouvé finalement devant un homme très résolu et très honnête, et il s'est trouvé aussi devant une population beaucoup plus résolue aussi. C'est exactement ce que Göring, je ne vais pas parler de Hitler, avait promis à Hitler en disant qu'en bombardant Londres, il allait faire plier les Anglais sans même envahir l'Angleterre. Et ben, on a vu. Et le bombardement de Londres a amené une espèce de redressement incroyable et a permis à Churchill de voir un mandat du peuple qu'il n'avait toujours pas à ce moment-là.
C'est même allé plus loin, puisque après, quand on a fait le débarquement le 6 juin, les Allemands n'avaient plus d'avions, parce qu'ils les avaient perdus dans cette opération fonctionnelle. Et ça a permis le débarquement. Est-ce que Poutine peut capituler? Est-ce que, en trouvant une porte de sortie, on dit, voilà, ils nous menacent de l'arme nucléaire, par exemple. Voilà, je leur ai fait peur et ils ont arrêté. Il peut faire ça? Ou bien les gens que vous décrivez peuvent le forcer à le faire?
Écoutez, vu ce qu'il a fait et le point où il est allé, c'est très difficile pour lui maintenant de ne pas subir la rigueur et la colère qu'il a provoquée dans le monde entier. Déjà, regardez toutes les affaires irréversibles qu'il a provoquées en très peu de temps. Il avait, par exemple, réussi en jouant de manière subtile sur les contradictions des membres de l'Union européenne, toujours pousser la Finlande, l'Autriche, tout ça, à rester neutre. Donc, ce sont vieux points de la guerre froide, mais ça ne fait rien. Les Autrichiens, comme les Finlandais, comme les Suédois, bien sûr, n'étaient pas membres de l'OTAN. Ils se sont joints à de nombreuses actions collectives, mais ils ne sont pas membres de l'OTAN. Tout d'un coup, maintenant, tout le monde va adhérer à l'OTAN.
Tout le monde va adhérer à l'Union européenne. L'Ukraine a demandé à adhérer à l'Union européenne.
Alors, par contre, on ne le fera pas, parce que de le compromis qu'on passera avec les successeurs de Poutine sera de mettre tout sur la table, et puis que l'Ukraine, bien entendu, son indépendance est garantie en or, mais en revanche, elle n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre d'un pacte Léonin avec Moscou, c'est fini.
Et est-ce qu'on s'emballe un peu en disant, bon voilà, c'est raté, c'est un peu l'esprit de ce qui se dégage de ce que vous dites, est-ce qu'on s'emballe un peu, et à savoir que non, rien n'est joué, on peut très bien prendre cette nuit une offensive sur Kiev, et...
Et il fera des gestes très provocateurs, simplement on ne comprend pas que le jeu d'échecs aujourd'hui se fait non pas entre Poutine et l'opinion russe, parce qu'il y a des gens très sympathiques là-dedans qui, évidemment, ne sont pas d'accord, mais entre Poutine et l'establishment russe, qu'il a bafoué et trompé. C'est-à-dire qu'en fait, le boomerang, c'est que Poutine, après évidemment avoir abattu l'Ukraine, et l'Ukraine résiste, ce qui est déjà très très mal pour lui, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de soumettre ou de démanteler le pays, comme ils le pensaient. Mais deuxièmement, Moscou aussi, on résiste. C'est-à-dire que l'homme qui est chargé de mettre en place la menace nucléaire, c'est Shoigu. Or, Shoigu est un personnage aussi étrange que remarquable, qui est totalement en opposition avec ce que fait Poutine. Alors, vous pourrez penser que c'est Israël. Non, pas du tout. Rassurez-vous, la politique de coopération que Poutine a voulu, c'est pour ça tout l'embarras d'Israël est là, qu'il a voulu ardemment, parce que c'est un très bon juif et un vrai sioniste. Mais par contre, tout ce qu'il a fait pour aider Israël face au Hezbollah et aux menaces iraniennes, par contre, il ne l'a pas fait vis-à-vis de la Chine. Or, Shoigu, comme son nom l'indique, ce n'est pas un russe, évidemment, c'est même mieux que ça, c'est ce qu'on appelle un bouriat, c'est-à-dire la tribu citoyenne russe, une tribu mongole qui parle mongol et dont la langue est le mongol, et sa capitale est Oulan-Udé, le même mot que Oulan-Bator. Et bien entendu aussi, il est très populaire en Mongolie. Et Shoigu, il n'est pas d'accord, mais c'est tout simple, mais on n'y pense pas, à ce que Poutine a fait avec la Chine. Poutine avait, sachant que la Russie ne pèse pas grand-chose elle-même, puisqu'elle n'a que, elle a exactement le PIB de nos partenaires castillans, enfin de nos partenaires...
Castillans, c'est espagnol.
Espagnol, de nos partenaires espagnols. Le PIB de l'Espagne est maintenant légèrement supérieur à celui de la Russie.
Ah oui.
Et donc, la puissance de Poutine, ce n'est rien s'il n'a pas l'aide de la Chine. Et pour cela, parce qu'il voulait absolument tenir tête aux Américains, etc., ce qui est son droit, mais il l'a fait de manière déconcertante et fausse, ça a été de brader toute la Chine, toute la Sibérie, jusqu'au lac Baïkal, à l'allié chinois, qui ne se gêne pas, en disant « ça fait rien, l'alliance avec la Chine est absolument essentielle ». Alors, le résultat, c'est que, donc, pourtant, la Chine est même réticente sur la Crimée. Je n'entre pas dans ce détail. Vis-à-vis de Poutine, veut l'alliance chinoise à tout prix, et pour cela, il est prêt à sacrifier toute la Sibérie. C'est là que Shoigu, qui est maintenant le chef de l'armée et qui est lui sibérien, dit non, non, ça c'est notre terre russe et il ne faut pas la vendre aux Chinois sous le prétexte d'aller emmerder les Américains ou d'aller emmerder les Européens. Non, ça ne vaut pas la peine. Notre avenir est avec l'Europe, justement. Et Shoigu, parce qu'il est en Mongolie, pense que seule l'Europe entière, c'est-à-dire les Français, les Allemands et même les pays latins, en investissant sur la solidité de la Russie, même si ça ne plaît pas à la Chine, vont permettre le grand programme de sauvetage de la Russie, du Transsibérien, du lac Baïkal, de tout ce que ça comporte. C'est la raison pour laquelle, là, il y a un désaccord complet entre Shoigu, qui est le patron de l'armée, Narychkine, qui est le patron du service de renseignement extérieur et qui en contrôle enfin quand même encore ce qui reste du KGB dans des pays comme aussi bien les États-Unis que Cuba, que etc. Donc c'est mauvais pour Mélenchon, ça, bien sûr. Parce que Mélenchon, c'est l'aide cubaine qui vient à son aide. L'aide cubaine, c'est quand même une aide russe. Bref, je fais toutes les poupées gigognes, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, Poutine, dans son geste inconsidéré, s'est mis dans une situation impossible. Et que effectivement, il a comme adversaire le chef de l'armée, le responsable en fait de toute la diplomatie moyen-orientale, qui est l'ancien ministre de la Culture Avdeïev, qui est pour l'instant ambassadeur à Rome, mais d'où il se concerte sur toute la politique concernant le Moyen-Orient et Israël. Et puis, bien entendu, Narychkine, qui est lui chef du renseignement extérieur. Donc, ça fait Narychkine plus Avdeïev plus Shoigu, eh bien, c'est un sacré contrepoids. Et ça, il les a depuis maintenant un certain temps. Et il a espéré s'en débarrasser par un geste d'audace incroyable, c'est-à-dire en leur mentant d'organiser une crise tellement irréversible. Il est toujours chef des armées, et il a bien sûr des partisans, qu'il pourra continuer comme ça et à un moment donné, se débarrasser de ces trois personnages.
De ses opposants.
C'est-à-dire ce que j'ai, le parti des sages. Donc c'est une affaire très sérieuse. Je pense aussi, par superstition, parce que la première fois que j'ai prédit que le coup d'État contre Gorbatchev ne réussirait pas, ah, ça a beaucoup impressionné les gens, j'avais dit, ça peut durer encore peut-être 3 mois, peut-être 3 semaines, peut-être même 3 jours. Et ça a duré 3 jours. Alors je ne dis pas que ça va durer 3 jours, mais je pense que là, il a affaire à forte partie. Il a déjà été contré par ces gens qui n'avaient rien contre lui.
Et il voulait une guerre éclair et il a raté, en plus.
Voilà. Grâce au courage de notre ami. Et donc, finalement, voilà, malgré tout l'embarras que tout cela...
On doit conclure, Alexandre.
...peut créer, parce que ça, c'était quand même un grand ami d'Israël que ce pauvre Poutine. Eh bien, et notamment un admirateur inconditionnel de Bibi Netanyahou. Et quand même, là, je crois qu'il va falloir qu'il tombe.
Alexandre Adler, merci pour cette analyse sur Radio Shalom, sur cette photo que vous nous donnez de l'ensemble de la situation. Merci à vous et bonsoir.